Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je voudrais poursuivre notre méditation, notre travail sur la Vierge Marie, qui, comme on l'a vu, a bien été abîmée dans ses privilèges, ses prérogatives, la médiation et la co-rédemption. Et puis, je viens de lire de très beaux textes sur cette grande vérité qui, comme nous le savons, aurait dû être définie comme dogme au Concile Vatican II, mais en raison des protestants notamment, eh bien, cette vérité qui était admise de façon générale dans le monde entier depuis des années et des années, eh bien, n'a pas été faite, n'a pas été... Donc il n'y a pas eu le saut de l'infaillibilité pontificale pour en faire un dogme de foi, la médiation et la co-rédemption. Et donc je viens de lire, en fait c'est hier, j'ai prévu un petit peu autre chose sur, bien sûr, la médiation, mais j'ai trouvé de très beaux textes de papes et d'évêques dans le monde entier sur cette définition possible. Donc ce sont des évêques au XXe siècle qui ont bien travaillé le sujet et qui ont fait des textes admirables pour montrer que cette vérité n'était pas nouvelle, mais très ancienne, puisant ses racines dans la Sainte Écriture. Ça, je l'ai vu dimanche dernier. J'étais en Vendée, mais c'est enregistré, donc vous pouvez toujours vous y reporter. La Sainte Écriture, les papes également, les papes sont nombreux à manifester cette foi en la médiation. D'Épie IX, dans l'encyclique, la bulle, qui va proclamer Notre-Dame, c'est la fête de demain, l'Immaculée Conception, dans la bulle, donc, Ineffabilis Deus, le pape Pie IX a conclu son propos en invoquant Marie comme médiatrice, réconciliatrice du genre humain, de tout le genre humain. Et ensuite, ses successeurs ont poursuivi cette étude théologique papale de cette vérité que Notre-Dame est médiatrice et avec le Christ, sous la dépendance du Christ, bien évidemment, car il n'y a qu'un médiateur, c'est évident, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais en sa dépendance, elle nous rachète la co-rédemption. Léon XIII a expliqué qu'on ne peut accéder à notre Seigneur que par Notre-Dame, sa mère. C'est la lettre Octobri Vence, 1891. Saint Pie X, je n'ai pas la date, le jour même et le mois, mais c'est 1904, je crois que c'est septembre 1904, ad diem illud, dit que Notre-Dame est médiatrice de toute grâce. Benoît XV, son successeur, le pape qui a été dans la Première Guerre mondiale, lettre apostolique de 1918, n'utilise sans doute pas le mot de co-rédemptrice, mais il donne l'idée de la co-rédemption. Pie XI, au terme de l'année sainte 1933, a invoqué publiquement Marie sous le titre de co-rédemptrice. Enfin, le pape Pie XII, en 1943, Mystici Corporis, une grande encyclique sur la Sainte Église, a exprimé avec élégance et densité ce qu'il faut entendre de la prérogative de Marie, à la fois médiatrice et co-rédemptrice. Et un évêque d'Irlande, Mgr Patrick O'Boyle, évêque de Killala, je ne sais pas où c'est, mais vous pouvez voir dans l'île verte où se trouve Killala, eh bien, dit ceci. Cela étant, il s'appuie sur les papes, cela étant, dit-il, le prochain concile œcuménique semble offrir une occasion opportune pour vérifier si cette doctrine déjà commune pourrait être définie. Sur ce point, il n'est pas du tout hors de propos de remarquer que d'un point de vue historique, il existe une ressemblance entre la doctrine de l'Immaculée Conception et celle de la médiation universelle de la Bienheureuse Vierge Marie. Bien qu'elle ait fini par être définie, la doctrine de l'Immaculée Conception a longtemps semblé non acceptable aux yeux de certains théologiens, et non des moindres, saint Bonaventure, saint Albert le Grand, même saint Thomas d'Aquin. Car ceux-ci ne voyaient pas, dit-il, comment concilier la conciliée avec le dôme de péché originel. De manière semblable, continue-t-il, même si la doctrine de la médiation universelle est disputée, compte tenu du très grand zèle avec lequel les fidèles veulent embrasser aujourd'hui cette belle vérité, on doit se demander si la divine providence ne frayerait pas la voie, surtout en ces temps, à la définition solennelle de la médiation universelle de la bienheureuse Vierge Marie. Voilà, donc il résume, cet évêque irlandais, ce que d'autres disent en Irlande. Les évêques italiens disent la même chose, mais je voudrais passer tout de suite aux évêques polonais. Et en Pologne, beaucoup d'évêques ont été extrêmement précis sur cette définition possible et probable de la Vierge Marie médiatrice. Monseigneur Czernak, C-Z-E-R-N-I-A-K, c'est imprononçable. Bref, il faut demander à un Polonais pour prononcer ce mot. Peut-être ça se dit comme Dupont, mais je ne sais pas. Il invoque le magistère en faisant appel au raisonnement théologique développé par les papes. Et il estime cet évêque, donc il a été évêque de 58, il est mort en 99, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été évêque d'un évêché, mais je ne dirai pas le nom de peur d'égratigner la langue polonaise que je ne connais pas. Il a été évêque 30 ans de cet évêché. Il estime que la médiation universelle de Notre-Dame doit être déclarée comme un dogme par le magistère ecclésiastique. Depuis que le pape Pie XI, dans l'encyclique du 8 mai 1928, a invoqué la médiation toute-puissante de la bienheureuse Vierge Marie, ce concept de la médiation universelle de Notre-Dame a de plus en plus été au centre de la réflexion chez les théologiens. Dans les congrès, les conférences, les pieuses unions est devenu de plus en plus clair. Cette formulation de Pie XI, qui ne fait reprendre que l'objet de la révélation divine, semble avoir été très souvent mise en lumière par la tradition de l'Église. On peut citer, pour asseoir cette vérité, un grand saint du XVIIIe siècle, Salut-Marie de Montfort, qui dit en toutes lettres qu'elle est médiatrice de toute grâce. Il n'est pas le seul à professer cette vérité. Et continue-t-il, il devient de plus en plus évident que cette doctrine de la médiation universelle de la Bienheureuse Vierge Marie s'appuie sur un double fondement, sur la maternité divine, d'une part, et d'autre part, le fait qu'elle ait été associée au Christ dans l'œuvre du salut. Comme nous le savons tous les privilèges de la Vierge Marie ont comme racine la maternité divine, fêtée le 11 octobre. Tous les privilèges, c'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle aura tous les privilèges que le bon Dieu lui accorde, parce qu'elle sera la mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et il dit que le pape Pie XII, tout récemment, a pris soin d'expliquer ce double fondement. Car ce double fait que la Vierge Marie ait pris part à l'œuvre de notre salut et qu'elle soit médiatrice de toutes les grâces, loin de détruire la médiation du Christ, se subordonne plutôt à celle-ci. Bien évidemment, elle est soumise, elle est subordonnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le texte du cardinal Fernandez, eh bien, il dit tout autre chose. Il dit que Notre-Dame prend une part de Jésus-Christ. C'est presque un blasphème. Non, jamais l'Église, jamais les saints, les théologiens n'ont voulu retirer quoi que ce soit de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais là, on rabaisse Notre-Dame au rang, je n'ai pas le texte sous les yeux que je vous avais lu, c'est une femme du peuple, parmi le peuple. Non, elle est bien plus que cela. C'est la mère de Dieu. Ce n'est pas une femme parmi les femmes. C'est une femme au-delà de toutes les femmes. Bénie entre toutes les femmes, dit Sainte Élisabeth. Bénie entre toutes les femmes. Et donc, puisque la vérité de cette médiation universelle de Notre-Dame est transmise dans l'enseignement du magistère de l'Église, la tradition constante et la sentence commune des théologiens, il reste encore à ce que, dit-il, jusqu'ici sentence de la foi, elle fasse désormais l'objet de la profession de foi catholique en ces termes. La bienheureuse Vierge Marie doit être déclarée médiatrice de toutes les grâces, non seulement parce qu'elle nous a engendré le Christ, mais aussi parce que la volonté de Dieu l'a créée comme médiatrice universelle et parce qu'elle exerce sans interruption ce rôle de miséricorde envers les hommes. Mater miséricordiae. Donc elle est médiatrice. Si elle exerce cette miséricorde, elle est médiatrice. C'est un paratonnerre pour nos âmes. Et dans le texte, je me rappelle bien, de Cardinal Fernandez, qui était signé après lui par le pape Léon XIV, le 7 octobre, et publié le 4 novembre dernier, eh bien on dit « Notre-Dame serait comme un paratonnerre, hors de question ». Bien sûr que oui, c'est un paratonnerre. Et je vous ai cité de mémoire cette apparition magnifique de la Salette, qui dit « Notre-Dame à Mélanie et Maximin, je ne peux plus arrêter le bras de mon fils ». Donc elle dit, en d'autres termes, je suis un paratonnerre. Si elle ne peut plus arrêter le bras de son fils, c'est un paratonnerre, qui est à bout de course, étant donné les péchés des hommes. Donc Notre-Dame a exercé ce rôle de paratonnerre, d'avocate, entre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous, pauvres humains, si pécheurs. Mais là, les péchés sont tellement abondants que son bras est comme impuissant pour arrêter la justice bien légitime de son fils qui va s'abattre contre les pécheurs qui ne font pas pénitence. Elle est paratonnerre, elle est miséricordieuse. Salve Regina, mater miséricordiae, c'est le Salve Regina. Donc faudrait-il encore une fois retirer cette prière de Salve Regina? C'est trop dire, c'est trop annoncer à Notre-Dame qu'elle est mère de miséricorde. Mère de miséricorde, médiatrice, ce sont des niveaux différents, mais ce sont des synonymes, donc c'est la même réalité. Un évêque et cardinal en France, on a parlé un peu des pays étrangers, mais en France aussi, le cardinal Richaud, archevêque d'abord Versailles, Laval et Bordeaux, 18 ans, archevêque de Bordeaux et cardinal Paul Richaud, dit ceci. Une définition concernant la médiation de la Bienheureuse Vierge Marie pour la distribution des grâces ainsi que sa qualité de co-rédemptrice me semble très souhaitable. En cette matière dogmatique, bien des points ont fait récemment l'objet d'études approfondies et d'un grand nombre de thèses à l'occasion de plusieurs congrès et dans le cadre de maints travaux théologiques. Il en est résulté un consensus assez unanime. Certes, une telle définition pourrait présenter un obstacle de poids à l'unité tant désirée de la Sainte Église, spécialement en ce qui concerne les protestants et certains schismatiques. Cependant, on peut bien se demander si les précisions et les explications qui seraient fournies lors de cette promulgation, en faisant un dogme, en mettant une fois de plus en lumière la maternité divine, de la Bienheureuse Vierge Marie, sur laquelle tout le monde s'accorde, et qui s'avère être comme l'origine et le fondement des prérogatives signalées, la médiation et la co-rédemption n'apporteraient pas aux hérétiques et aux schismatiques un éclairage opportun en ce domaine. Bien sûr, il est conscient que cela pourrait faire grincer les hérétiques et les schismatiques, mais c'est l'occasion aussi pour eux de découvrir la doctrine. Et comme nous le savons, entre la dernière guerre mondiale et le concile, beaucoup de protestants se convertissaient par l'amour de Notre-Dame. Et le concile a stoppé cette belle vague de conversion. Le texte que j'ai sous les yeux, dans un deuxième volet, c'est intéressant, mais ce n'est pas le propos ce matin, dit aussi que des évêques ont été plus réservés sur cette définition possible à cause des protestants. Non, ça va faire encore du trouble. Mais ils disent quand même que malgré cette crainte de soubresaut encore, eh bien, il n'y a pas lieu de s'arrêter devant cette définition à faire durant le prochain concile. Alors, quand le cardinal, c'est ma conclusion, quand le cardinal Victor Fernandez dit qu'il y a peu d'évêques et peu d'écrits au XXe siècle qui font en sorte que cette médiation soit claire et définissable, soit il ne sait pas lire, soit de mauvaise foi. Et je pense qu'il sait lire. Il est de très mauvaise foi. Et la façon dont il agit, dont il a fait ce texte, eh bien, il a gravement fauté. Parce qu'en tant que cardinal préfet du dicastère pour la foi, eh bien, il démolit la foi de fond en comble. Il a attaqué Notre-Dame de façon grave et pernicieuse. Il sait lire. Il a des lunettes. J'ai vu la photo, il a des lunettes. Mais il est de mauvaise foi. De très mauvaise foi. L'omission est grave. Et si elle est délibérée, et c'est le cas, certainement, elle est malhonnête, voire pire. Sapit hérésime. Ça sent mauvais. Sapit hérésime, ça veut dire ça sent l'hérésie. Ça sent l'hérésie. Ce n'est pas une hérésie, parce que ce n'est pas encore un dogme. Quand on nie un dogme purement et simplement, on dit que la personne qui nie un dogme est hérétique. Mais quand les choses sont tellement éclairées par la Sainte Écriture, par les théologiens, par le travail des papes également, et tant d'évêques, de façon unanime, alors c'est un péché contre la foi. Contre la foi. C'est pire encore, bien sûr, que les péchés contre la pureté. La pureté, c'est grave, mais la foi, c'est pire, parce que ça s'attaque à Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Donc, mes bien chers frères, que ces graves péchés faits par les hommes d'Église au plus haut niveau, eh bien, suscitent en nous plusieurs sentiments, plusieurs dispositions, réparer et aimer Notre-Dame, prier Notre-Dame plus ardemment, pas forcément plus longtemps, mais avec plus de fidélité, plus d'amour, nous accrocher vraiment à Notre-Dame, par qui notre Seigneur Jésus-Christ est venu, par Notre-Dame. La crèche est à côté de moi, il y a Notre-Dame, elle attend notre Seigneur Jésus-Christ, elle est prête pour donner naissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour qui? Pourquoi? Pour nous. Elle donne Jésus-Christ pour nous racheter. C'est le passage obligé que Jésus-Christ, que le bon Dieu, qui est Jésus-Christ, a voulu pour nous, pauvres pécheurs. Notre-Dame était le moyen idéal, unique, privilégié, pour que notre Seigneur Jésus-Christ vînt sur terre. Bien sûr, c'est lui le sauveur, le médiateur unique, bien évidemment. Mais encore une fois, Notre-Dame est médiatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par elle et elle les présente comme une mère, comme une reine, comme une fille de Dieu. Elle a toutes ses qualités, Notre-Dame. Elle est toute pour notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Elle ne garde rien pour elle-même. Elle donne tout à Dieu. C'est le transparent de Dieu, le miroir de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.